13h-14h, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Ma mission chaque jour, c'est vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur le savon. Il renoue, vous allez le voir avec la tradition. Le secteur se remet en cause pour nous proposer, sous l'impulsion d'acteurs français, des produits naturels et bons pour notre épiderme. Elle fête, elle, ses 130 ans du côté de Laval, en Mayenne. Elle est toujours familiale. Gruau est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis à 7 jours du coup d'envoi du bac, vous voulez peut-être réviser en chantant. C'est possible grâce à Studytrax. C'est la solution pour retenir les leçons en fredonnant. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Benjamin Lévesque est là, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Chaque seconde, écoutez bien, ce sont plus de 3 kilos de savon qui sont consommés en France. C'est l'équivalent d'1,6 kg par habitant chaque année. Mais il y a savon et savon. Bonjour Neil Parra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Comme Avant. C'est une toute jeune marque de savon solide bio. Et je crois que c'est à la naissance de votre fils, justement, que vous avez eu le déclic parce qu'il développait des rougeurs et que vous n'arriviez pas à trouver de produits adéquats.
Oui, en fait, Naël avait des genres de plaques rouges sur le corps. Et ma femme est très portée vers le bio. On a essayé beaucoup de choses et ça ne marchait pas spécialement. Et j'ai fabriqué un premier savon à 100% huile d'olive. Et en quelques jours, il n'avait plus rien. Et ils m'ont tous dit, vas-y, lance-toi. Et voilà, j'ai créé la marque Comme Avant.
Parce que vous n'étiez pas du tout, mais alors pas du tout dans ce secteur-là.
Pas du tout. Je suis ingénieur en informatique, donc ce n'était pas du tout mon domaine.
Donc il a fallu apprendre à faire du savon. Ce n'est pas très compliqué. On peut trouver des recettes par-ci, par-là, assez faciles à réaliser à la maison.
Oui,
et c'est comme ça que vous vous êtes lancé.
Net, etc. Alors, moi, j'en avais fait un peu au lycée.
Ouais, comment vous avez fait pour trouver celle qui allait bien correspondre?
En fait, c'est une des recettes les plus simples. C'est de l'eau, de la soude et de l'huile d'olive. Et se forme le savon, plus de la glycérine naturelle. C'est ce qu'on appelle un savon de Castille. C'est l'ancêtre du savon de Marseille.
Alors, c'est celui qui est là avec nous sur, sur Europe 1.fr. Ce savon, il est totalement naturel.
En fait, la soude, elle, bien sûr, n'est pas naturelle. Mais une fois transformée avec l'eau et de l'huile, se forme le savon. Voilà. Et il reste plus de soude à la fin.
Alors ça commence par une petite entreprise familiale artisanale à la maison avec votre femme.
Oui,
et Sophie. Et puis petit à petit, on vous dit sur les réseaux sociaux, mais c'est super ton savon, tu veux pas le commercialiser? Alors vous en mettez quelques exemplaires à la vente et ça marche.
Et ça décolle. Sa sœur Marie est venue aussi dans l'histoire, la mère de Sophie et Marie, son frère, son compagnon. Et puis petit à petit, on s'est retrouvés, on est pas loin d'une vingtaine maintenant.
Une 24. Vingtaine en 2 ans, c'est ça?
En 2 ans, oui.
Comment est-ce que vous expliquez ce besoin, cette envie de naturel, de retour aux produits qu'on avait avant finalement à la maison?
En fait, je pense que les gens, ils veulent de la transparence. Soit de la transparence dans les produits et aussi dans l'entreprise, comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on réussit, qu'est-ce qu'on ne réussit pas. Et voilà, avoir confiance dans la société qui fabrique leurs produits, qui mettent tous les jours sur la peau.
Du coup, vous avez élargi la gamme, vous ne vous êtes pas arrêté au savon, vous avez commencé à proposer d'autres produits, toujours dans la même veine, avec aussi un petit design intéressant. C'est qui sur le petit dessin qui représente Comme Avant? On a une grand-mère à l'ancienne.
On pose à chaque fois la question.
Elle est sortie de votre imagination.
C'est purement marketing. C'était juste pour coller avec la marque, par contre, qui a vraiment une philosophie qui est Comme Avant. Et voilà, on trouvait ça sympa, ça a plu à Sophie, ça m'a plu, on s'est dit bon, bah, il faut une mascotte, on va mettre ça, c'est bien.
Alors dites-moi, les savons comme celui-ci sont plus chers à l'achat au départ, mais c'est plus économique parce que ça dure plus longtemps?
Alors c'est sûr, par rapport au savon liquide, c'est sûr qu'il contient de l'eau, là c'est anhydre, donc il n'y a pas d'eau, donc là c'est vraiment plus économique et c'est souvent un peu plus cher, faut compter de l'ordre de 20% en plus d'un savon traditionnel.
Que dit notre coach de l'aventure Comme Avant?
Je pense que ça fait du bien parce que on est parti ces dernières décennies vers des produits qui sont pas toujours extrêmement totalement naturels. Donc je pense qu'il y a un grand besoin de retour vers ces produits-là. Alors moi j'ai une question par rapport à la manière avec laquelle, enfin la manière et la quantité de produits que vous prenez en amont pour produire votre savon. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Quel est l'impact environnemental, en fait, d'aller chercher tous ces produits-là par rapport aux autres filières? Et oui, où est-ce que vous les trouvez, tous vos produits, les matières premières que vous utilisez?
Alors, on essaie d'être le plus transparent possible, même sur les matières premières. Donc, on décrit tout sur notre site. Et en fait, on essaye de faire un stock qui correspond à entre un mois et deux mois de production. Et de toute façon, on ne peut pas faire mieux, notamment parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires, une petite entreprise familiale. Chaque matière, en tout cas, on essaye d'avoir, pareil au niveau du fournisseur, le plus de transparence possible. Est-ce que c'est certifié Cosmos? Est-ce que c'est bio, etc.?
C'est le cas en ce qui vous concerne, la certification.
Oui. On a passé deux certifications, la certification Cosmos Bio, et on a obtenu un label d'une association qui s'appelle Slow Cosmetics, qui met en avant les entreprises qui font attention à l'environnement et bien sûr au corps et à l'homme avec un grand H.
Benjamin, vous en avez trouvé d'autres, des marques qui, comme avant, s'orientent vers le bio et essayent de revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel?
Oui, il y a par exemple la marque française L'Amazonin, qui veut dire la jolie jeune fille en géorgien, et qui propose des savons solides, zéro déchet et vegan. Et si vous êtes engagé aussi dans la protection animale, je vais aussi vous parler de la marque Pachamamaï, qui commercialise des savons naturels et en fait qui ne réalise aucun test sur les animaux, uniquement des volontaires humains.
On s'aperçoit, Neil, qu'il y a de plus en plus de marques qui sont en train d'occuper ce créneau. Ça signifie qu'il y a un vrai mouvement de société pour vous? C'est quelque chose que vous ressentez?
Oui, c'est plus qu'un buzz. C'est vraiment, les gens font attention maintenant à tout ça. Nous sommes très fiers qu'il y ait des marques comme ça qui se joignent à nous, dans un sens ou dans l'autre. Et on préfère qu'ils achètent ces produits-là, que ce soit nous ou des concurrents, plutôt que des produits un peu cracra dans un hypermarché.
Vous dites, on est une petite entreprise familiale. Vous avez été aidé justement pour vous lancer?
Non, en fait, j'avais déjà une première entreprise qui avait absolument rien à voir. Et c'est grâce à ça qu'on
société
a pu monter.
Société de cadeaux, c'est ça.
C'est ça. On a monté le laboratoire, etc. Grâce à cette première société. Et heureusement, parce que c'est un coût non négligeable de monter un laboratoire en France.
Et vous ouvrez bientôt votre première boutique?
Oui.
À Marseille, je suppose.
Oui, à 300 mètres du laboratoire. Et la communauté qui nous suit sur les réseaux, ils sont vraiment impatients de venir nous rencontrer. Et on va faire plus que ça. En fait, il y a une partie boutique et une partie atelier, où on va faire des ateliers, conférences autour de l'écologie, du bien-être.
Du
zéro waste. Le premier atelier, ça va être Zéro Waste Marseille. Donc on est très fiers et très contents que ce soit eux qui viennent faire le premier atelier.
Combien de savons vendus aujourd'hui? Vous avez les chiffres?
On a plus de 70 000 clients, donc on peut au moins faire un savon par client.
On reste ensemble et on continue à parler savon aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1, il est 13h10.
Europe 1.
Et si, à la place du distributeur en plastique pour vous laver les mains, vous mettiez une râpe à savon? C'est possible et on va vous le montrer. À tout de suite.
Et on parle d'une autre façon de se laver dans La France Bouge, le savon râpé, un moyen écologique et pratique.
Bonjour Richard Lefaucheur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'inventeur de la râpe à savon. Alors elle est avec nous sur europe1.fr, cette râpe à savon. Et votre société est basée dans le Var, mais je crois que votre atelier de fabrication, lui, est en Picardie.
Oui, tout à fait.
Vous êtes une sorte d'inventeur dans l'âme, on peut le dire, parce que avec votre frère, Joël, en 1993, vous aviez créé le vélo électrosolaire, c'est ça?
Tout à fait.
Et c'est cette fibre écolo, toujours elle, qui vous a guidé à imaginer une râpe à savon?
Oui. Donc, en fait, on s'est aperçu que les savons liquides généraient d'énormes emballages en plastique.
Oui.
Il faut savoir qu'il y a à peu près 16 000 tonnes d'emballages en plastique qui sont jetés par an, source de l'ADEME. Et sur ça, on s'est dit, en tant qu'inventeur, parce que mon frère est inventeur avec moi, on s'est dit comment on peut agir pour préserver un peu la planète des plastiques. Et étant donné que moi, j'utilisais tout le temps du savon naturel, et pour pallier à ce problème-là donc, d'emballage, on a créé une râpe à savon qui permet donc au savon solide de toujours être propre et hygiénique.
Alors ça, c'était il y a 8 ans, c'est ça?
Tout
l'idée en tout cas. Et vous plaquez tout? Vous travaillez chez RTE?
J'étais ingénieur en informatique au Centre de recherche de Gaz de France.
Mais décidément.
À UDF et à RTE.
Et vous décidez de tout lâcher, tout plaquer pour vous concentrer et vous consacrer à cette invention.
Comment ça se passe au début? C'est compliqué à mettre en place cette invention?
Oui, c'est compliqué parce que ce sont des investissements déjà personnels. Donc, lorsqu'on travaille en tant qu'inventeur sur ces produits, on n'est pas payé. Donc, c'est toujours madame qui fait fonctionner la famille. Et sur ça, moi et mon frère, donc, on a quand même décidé de travailler durement sur notre produit qui est la râpe à savon pour amener à bien l'ensemble de la conception.
Alors, vous en créez une première, je crois qu'on est en 2011, qui est en bois. Oui. Puis on vous dit, non, c'est un peu trop vintage pour nous, il faudrait quelque chose d'un peu plus moderne. Du coup, vous changez le modèle. Et alors, elle est avec nous, cette râpe. C'est tout simple, hein. C'est un système avec un pied qu'on peut poser, un pied qui adhère à la table, par exemple. Et on a une petite moulinette sur le côté. On va tourner, on va mettre le savon à l'intérieur et le savon va sortir en petits copeaux. On n'a plus besoin du distributeur liquide, le fameux savon liquide qui génère tant de pollution.
Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir, bon, pourquoi on a réellement inventé aussi la râpe à savon, c'est que les problèmes du savon au solide aujourd'hui, c'est un problème d'hygiène. Et beaucoup de personnes n'aiment pas retrouver aussi un savon dégoulinant sur son porte-savon. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% des gens utilisent du savon liquide parce que c'est beaucoup plus pratique. Et pour pouvoir revenir donc au savon traditionnel, il a fallu pallier à l'ensemble des inconvénients du savon traditionnel. Et c'est pour ça qu'on a inventé la râpe à savon qui permet au savon donc de toujours être propre, hygiénique et d'avoir un distributeur qui soit aussi facile à utiliser qu'un distributeur de savon liquide.
Que dit le coach de cette invention qui est commercialisée depuis un an maintenant?
Moi, je dis que déjà, si les informaticiens s'attellent à l'amélioration de l'environnement, on a peut-être une chance de...
de s'en sortir.
De s'en sortir. Mais cela dit, on a besoin d'informaticiens aussi dans l'informatique.
C'est vrai.
Donc bon...
On peut faire les deux.
Non, je voudrais savoir, parce que moi, il y a un truc qui m'a toujours fait très drôle, très, très bizarre. C'est tous les petits savons dans les hôtels qui sont utilisés une fois et qui sont jetés. Est-ce que vous avez un circuit de récupération de tous ces petits savons
pour
les râper?
Oui, nous, on n'a pas de circuit de récupération. Mais par contre, la râpe à savon répond à ce problème. Puisqu'en utilisant une râpe à savon dans les chambres d'hôtel, on met tout simplement un savon solide à l'intérieur qui est consommé jusqu'au bout puisqu'il n'est jamais touché par les personnes. Donc, il reste propre du début à la fin et on ne jette pas de morceaux de savon.
Je ne sais pas si la vidéo nous suit, mais en tout cas, sur le haut de la râpe à savon, il y a un endroit qu'on peut... Alors, je vais essayer de le faire en même temps, ce n'est pas évident. Il y a un endroit qui se déclipse et dans lequel on peut introduire le savon. Ouais. Le savon va aller à l'intérieur et ensuite, on va refermer et on va tourner au fur et à mesure. Et le savon termine en poudre, en fait. Hein, et on va pouvoir se laver et il n'y a finalement pas de reste de savon.
Mais je parlais de la situation actuelle de laquelle on part, c'est-à-dire qu'avant qu'on installe des râpes à savon dans tous les hôtels du monde, je pense qu'il va se passer à peu près 23 ans.
Ouais, j'espère un peu moins. Vous en avez déjà installé un petit peu des savons.
Oui, on peut récupérer les savons d'avant, quoi.
Ça risque de poser un problème d'hygiène, je pense.
On en a installé dans des hôtels Ibis, donc on en a installé dans des restaurants.
Dans les entreprises aussi,
dans
un petit peu.
Dans des entreprises. Il y a des mairies, par exemple, dans le 77, qui sont nos premiers clients, qui ont installé aussi des râpes à savon. Donc, ils en sont très contents. Parce qu'on parle souvent aussi des aspects écologiques du savon, mais il y a aussi un aspect économique qui est très important. Il faut savoir que le savon solide coûte 30 fois moins cher que le savon liquide. Donc, pour des professionnels qui utilisent des savons liquides, ça en leur fait une économie de 30 par rapport à ce qu'ils dépensent.
Benjamin, vous avez trouvé des concurrents à la râpe à savon? Il y en a? Ça existe?
Oui, parmi les autres acteurs, on va retrouver la marque de Nathalie Stomfli qui a eu cette même idée bien de créer une râpe à savon tout en gardant le concept de distributeur, donc pas d'emballage. Et puis vous avez aussi la marque Soplaneur avec son distributeur de savon, le même concept. Hein, vous mettez votre savon solide dans le boîtier qui est fixé au mur et ensuite en appuyant, vous obtenez des petits copeaux de savon. Là encore, on fait des économies. Le savon reste au sec et puis n'est pas souillé par les salissures.
On reste ensemble et on continue à parler savon aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h21. Europe 1.
Et si vous laissiez tomber, messieurs, votre mousse à raser pour la remplacer par du savon, c'est possible et c'est Bards qui le propose. A tout de suite.
Dans La France Bouge, on parle des meilleures innovations en matière de rasage, figurez-vous, avec le savon à raser.
Vous avez peut-être, messieurs, si vous êtes à l'écoute, dans votre salle de bain, de la mousse à raser. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi choisir des savons, comme chez le barbier. Bonjour Virginie Vachter.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice justement de Bards, coiffeur et barbier, et vous avez développé votre marque de savon solide à raser, 100% fabriqué sur l'île de Ré. Ça, c'est la particularité, parce que c'est là que vous avez ouvert votre premier salon de coiffure en 2012, et puis votre premier salon de coiffeur et barbier, là pour le coup, c'est en 2017 avec la fameuse marque
c'est
Bards.
Ça, tout à fait.
Alors, comment naît l'idée de Bards? Racontez-moi.
Alors Barnes, en fait, c'est donc ma deuxième société que j'ai ouverte pour mes 30 ans. Donc mon métier à la base, c'est coiffeuse et barbière. J'avais pour envie de créer une marque de cosmétologie depuis plusieurs années déjà. J'avais trois points fondamentaux, c'était la fabrication française. Je souhaitais mettre à l'honneur l'île de Ré parce que je suis rétaise, donc je voulais un ingrédient rété dans chaque produit. Et une démarche éco-responsable, comme mes amis à côté.
Et alors, comment est venue l'idée d'un savon? C'est quelque chose que vous réclamez vos clients, notamment. Ils avaient le sentiment que les produits que vous proposiez ou ceux qu'ils connaissaient n'étaient pas forcément le produit idéal pour se raser.
Alors, j'ai quelques clients qui se rasaient déjà avec des savons à barbe, qui me disaient qu'ils ne trouvaient pas forcément leur bonheur. Certains me disaient que ça ne moussait pas forcément bien. On ne connaissait pas trop l'origine du produit. Moi, je l'utilise tous les jours puisque je m'en sers au salon. Donc, du coup, voilà, cette idée, elle est venue comme ça. Le problème aussi des emballages, c'est quelque chose d'assez récurrent quand on passe des commandes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas axer là-dessus et créer ma propre marque.
Et puis, vous aviez aussi, je crois, trouvé que la plupart des produits qui étaient sur le marché avaient parfois des odeurs un peu trop fortes
et ça posait parfois
problème à certains clients.
Tout à fait. Il y avait le problème d'odeur, parfois c'était le problème de texture, la mousse qui était pas assez compacte, trop compacte. Donc voilà, je me suis dit, banco, il faut que j'y aille.
Vous êtes lancée. Comment vous faites pour vous lancer, pour fabriquer votre propre produit? Vous faites appel aux artisans locaux?
Tout à fait. En fait, juste à côté du salon, j'ai la chance d'avoir beaucoup de créateurs locaux, dont une savonnerie qui s'appelle Loi et Savon. Et en fait, c'est le seul producteur de savon sur l'île de Ré.
Loi, L-O-I-X. Hein.
Tout à fait. Et du coup, eux, ils travaillaient déjà avec du lait d'ânesse. Donc, je me suis intéressée à ça. Et puis, en discutant, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un partenariat. Et du coup, ils travaillent avec moi.
Donc, c'est eux qui fabriquent avec vous ce savon.
Tout à fait.
Il y a une boîte aussi. Ça, c'était important, justement, pour régler la question des emballages.
Tout à fait. En fait, le principe, c'est d'acheter la boîte avec le savon à l'intérieur. Et une fois que le savon est terminé, il suffit juste de racheter une recharge. On conserve la boîte.
Vous l'avez lancé très récemment, ce savon. C'est quelque chose qui marche bien, déjà?
Oui, ça marche très, très bien. On est quasiment en rupture de stock. Donc, on est en train de faire de la refabrication de savon. Donc, oui, c'est au-delà de mes attentes. J'ai beaucoup de clients qui sont satisfaits. J'ai une belle communauté qui me suit. Et c'est assez sympa.
Que dit notre coach de l'aventure savon à barbe Barnes?
Alors, c'est marrant. En un mot, ce qui ferait basculer quelqu'un qui utilise aujourd'hui de la mousse à utiliser du savon?
Alors déjà, c'est économique, puisque un savon à raser, si on se rase une fois par jour ou tous les deux jours, ça dure en moyenne 3 mois.
Ça coûte combien un savon à
15 euros. Et puis 9 euros la recharge. Donc déjà, il y a une démarche écologique, il y a une démarche économique. Et puis aussi de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez important aussi.
Et pour le poil, pour la qualité du poil après?
Alors, c'est surtout la qualité de la peau, puisque le poil après, il disparaît après le rasage. Mais au niveau de la qualité de la peau, oui, on a remarqué qu'il y avait une meilleure souplesse. C'est les propriétés du lait d'ânesse, c'est que...
C'est extrêmement hydratant.
Tout à fait. Et puis ça protège aussi les peaux sensibles. Donc j'avais aussi ce souci avec certains clients, ceux qui ont des peaux un peu délicates. Du coup, voilà, on est sur quelque chose de plus doux en fait que les mousses à raser industrielles ou les gels à raser.
Je crois que vous avez trouvé, Benjamin, on était avec le lait d'ânesse, du savon à base de lait de chèvre.
Et de brebis également, c'est un projet assez fou de deux bergers corses. En fait, ils sont à la tête d'un troupeau de plus de 700 chèvres et brebis. Et ils ont trouvé en fait une boutique, alors à la fois diététique parce qu'il y a des fromages bio, mais aussi hygiénique avec des savons. En fait, avec seulement 5 litres de lait, eh bien, ils sont capables de fabriquer 250 savons. L'avantage, c'est que le lait de brebis, eh bien, il a des propriétés grasses et donc très adaptées aux peaux sèches et fragiles.
On reste ensemble et on continue à parler savon aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1.
Et on vous attend, Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge avec vous.
Quand le savon se réinvente, on écoute le meilleur de la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités aujourd'hui.
Nous sommes avec Neil Parra, fondateur de Comme Avant, le savon solide bio de Marseille. Richard Lefaucheur, cofondateur de la Rap à Savon avec son frère Joël. Savon et Rap à Savon écologique et hygiénique. Et puis Virginie Vachter, fondatrice de Barnes Savon à raser 100% loadé. C'est à Loye sur l'île de Ré, on précise les choses. Notre coach aujourd'hui, c'est Frédéric Mazella. Et évidemment, Benjamin Lévesque est toujours à mes côtés. Moi, j'ai une question pour Richard. La Rap, vous avez commencé par fabriquer en bois parce que c'est un matériau qui évidemment est écolo. Aujourd'hui, cette râpe, elle est en quoi? Elle est en plastique recyclé? Donc, oui, on ne l'a pas précisé.
Elle est en ABS exactement, qui est un plastique recyclable. Donc, faut dire que c'est un appareil qui est permanent, c'est-à-dire une fois qu'on l'achète, il ne génère plus de plastique. Donc, si c'est un appareil qu'on garde pendant 10 ans, ben, on économise 10 ans de déchets de savon liquide.
Et ce modèle aujourd'hui, vous le vendez, on l'a dit, aux entreprises, aux mairies, oui. À différents groupes. Mais est-ce que les particuliers peuvent l'acheter?
Ça, oui, c'est... tout à fait. On a un site internet qui s'appelle larapasavon.fr.
Mm-hmm. C'est quelque chose qui coûte cher, une râpe à savon comme ça?
Donc, une râpe à savon comme ça coûte 89 euros TTC. Et... qui est rentabilisé quasiment au bout de 6 mois par rapport évidemment à des savons liquides.
Et vous êtes associé, on ne l'a pas dit, hein, avec plusieurs savonniers.
Voilà, des grands savonniers.
Notamment la savonnerie Rampal qu'on a reçue ici sur
oui,
Europe 1.
Rampal La Tour, le fer à cheval. Mm-hmm. Et un petit savonnier qui s'appelle Savonito du côté de Fayence.
Alors, petite question sur Twitter.
Alors, on a beaucoup de messages, on a beaucoup de réactions à cette émission.
Allons-y.
Marie nous dit « De nombreuses savonneries artisanales et locales se créent un peu partout en France. Elles font de la savonification à froid et utilisent
saponification
oui. et utilisent des ingrédients locaux. » Et puis, on a une question pour Virginie. C'est Marc qui vous la pose sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il dit « J'ai laissé tomber la mousse à raser pour la crème de rasage depuis 2 ans. » Quelle est la différence avec votre savon à raser à vous?
Virginie.
Alors, je pense que la crème, au bout d'un certain temps, en fait, le produit est complètement utilisé. Donc, je pense qu'elle dure moins longtemps que le savon. Moi, c'est un savon solide qui s'utilise avec un blaireau. Je pense que la crème, elle s'utilise comme un gel ou une mousse à raser qu'on applique directement sur la peau.
Une question peut-être de notre coach ou une remarque à ce moment de l'émission?
Oui, c'est par rapport à la spécialité française. Est-ce qu'on a une spécialité française sur le savon?
Spécificité, c'était ça le mot.
Oui, voilà, peut-être. C'est ça. Enfin, c'est entre spécialité et spécificité. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie les savons français des savons du reste du monde? Est-ce qu'il y a une différenciation? Et si oui,
sur
est-ce qu'on a intérêt
peut-être
à le mettre en avant?
Savon de Marseille, évidemment. Neil?
Oui, alors, bon, en fait, il y a déjà deux types de savons. Il y a la saponification à froid et celle à chaud. Donc, la plus connue, c'est celle à chaud, notamment le savon de Marseille, qui a été...
En chaudron.
Voilà, exactement, qui a été copié jusqu'en Chine, puisque c'est fabriqué bien moins cher là-bas. Mais il y a quand même, hormis les 4 savonneries marseillaises qui restent, qui fabriquent du savon de Marseille, il y a quand même des entreprises aussi en France qui font du savon à chaud, qu'ils appellent aussi savon de Marseille et qui est du très bon savon. Et en saponification à froid, là c'est pareil, en Europe il y a de très bonnes entreprises et on a une spécialité aussi en France sur à froid, mais on va dire que c'est plutôt à chaud.
Mais la différence sur la texture, est-ce que dans certains pays on met plus de lait, est-ce qu'il y a des envies,
ingrédients aussi. Je pense que voilà, l'ingrédient il joue pour beaucoup. Au-delà de la partie technique, je pense que chaque pays a ses spécificités, a ses, à ces ingrédients locaux, en fait.
Alors, est-ce que quand on crée une marque de savon, comme pour les savons, pour les parfums, on va marquer Paris en dessous, enfin Paris ou Paris, comme disaient les internationaux. Et est-ce que pour le savon, il faut créer un savon et marquer Marseille en dessous
pour que ça marche, pour que ça fonctionne à
l'international ?
C'est sûr que c'est connu, le savon de Marseille, ça, on n'en doute pas. Nous, on fait toujours attention, en tout cas pour comme avant, de dire c'est un savon de Castille,
oui,
fabriqué à Marseille. Et le savon de Castille, c'est que de l'huile d'olive. Voilà. Après, le savon de Marseille,
il
y a souvent d'autres huiles végétales.
Le distinguo et ne pas...
Très bon savon, mais c'est différent les deux.
Oui, pour que le consommateur ait vraiment une transparence totale sur le produit.
Très fier
du
savon de Marseille, mais le nôtre, c'est un savon de Castille.
Merci à tous les trois. Je termine avec un petit message posté par Philippe au 3921. Cela fait 20 ans que je n'utilise pas de savon. Ma peau n'a pas besoin d'être décapée. J'ai une peau superbe. Il faut se nettoyer avec un gant, nous dit-il. Il faut nous poster une petite photo, Philippe. On sera ravis de vous voir. À très vite sur Europe 1 et sur Twitter. Hashtag Europe 1, évidemment, pour la petite photo. Merci à tous les trois d'être venus nous rendre visite aujourd'hui.
Il est 13h37.
Europe 1.
Elle fête ses 130 ans, elle est toujours familiale. Le groupe Greot est l'entreprise qui va bien, merci.
Et il est temps de parler de l'entreprise qui va bien. Elle a 130 ans et elle est spécialisée dans le domaine de la carrosserie.
Cette entreprise, c'est le groupe Greot. Bonjour Patrick Greot.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Groupe familial, fondé à Laval en 1889, effectivement. Et à l'époque, c'est votre arrière-arrière-grand-père qui était charron.
Ouais. Tout à fait.
C'est l'ancêtre du carrossier, le charron.
Exactement. C'est celui qui réalisait des charrettes hippomobiles ou des carrioles, tout simplement.
Alors, René Legaudet, c'est ça ?
C'est ça, c'est du côté de ma grand-mère.
Et vous avez accompagné, on peut le dire, avec cette entreprise Greot, ce groupe Greot, l'évolution de l'automobile en général.
C'est ce qu'on a coutume de dire, c'est que nous sommes partis de l'hippomobilité à l'automobilité. Donc, mon arrière-arrière-grand-père, c'était les charrettes. Mm-hmm. Mon grand-père, c'est lui qui a apporté, je dirais, les principaux changements. Et c'est lui qui a travaillé dans le domaine de la carrosserie sur les véhicules utilitaires et les véhicules industriels. Et puis, plus récemment, le groupe, nous l'avons spécialisé dans le domaine de l'utilitaire.
Oui, c'est vrai que votre grand-père, il a senti le vent tourner. Et il a compris que l'avenir, c'était le véhicule professionnel, les poids lourds.
Plutôt que la voiture particulière, oui, tout à fait, puisque les constructeurs ont eux-mêmes organisé l'industrialisation de leurs produits, puisqu'un constructeur au début du siècle dernier, c'était celui qui fournissait un châssis, un moteur, quatre roues, mais c'était le carrossier qui réalisait la carrosserie. Et aujourd'hui, ceci se retrouve exclusivement dans les véhicules industriels et d'une façon générale, les véhicules pour les professionnels.
Ça signifie qu'on vous connaît sans vous connaître, finalement, parce que c'est vous qui réalisez, par exemple, les camions des pompiers, les ambulances, les voitures des pompes funèbres, les véhicules de police aussi.
Normalement, vous devez en croiser quelques-uns dans une journée. En tout cas, ce sont ces véhicules qui, effectivement, la plupart du temps, on connaît un véhicule sous le nom de sa marque automobile. Mais celui qui apporte la fonctionnalité, c'est le carrossier industriel. Et c'est effectivement ce que nous transformons. Et ce qui caractérise Greot ces dernières années, c'est que c'est une vingtaine de lignes de produits différents pour faire de nous un multispécialiste.
Avec plusieurs métiers, je suppose.
Énormément de métiers, puisque ça va du frigoriste, puisqu'on travaille sur les véhicules frigorifiques, mais aussi bien sûr sur les véhicules électriques, la mécatronique, donc des noms un peu plus, je dirais, un peu plus récents, mais pendant toute une époque, on parlait de menuisier, de taulier formeur. Donc en fait, ce métier a évolué avec son temps et a accompagné par ces métiers l'ensemble de l'évolution de l'automobile, tout simplement.
Et vous, personnellement, Patrick Greot, vous avez pris un autre tournant, qui est celui de l'utilitaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement inspiré dans l'utilitaire ?
Écoutez, d'abord, c'est ce qu'on savait le mieux faire. Donc, il faut savoir capitaliser sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Et deuxièmement, je croyais à l'époque, c'était en 1988, que l'évolution de l'utilitaire, l'évolution de la circulation en ville en particulier, les grandes métropoles seraient plus porteurs, en tout cas, que la route. Et c'est l'utilitaire que nous avons choisi et qui nous permet aujourd'hui aujourd'hui d'être présent sur toute la chaîne de distribution, non pas jusqu'au dernier kilomètre comme on le dit souvent, mais parfois même jusqu'au dernier mètre.
Au début des années 60, vous avez inauguré un nouveau site. Je disais que vous aviez commencé à Laval. Aujourd'hui, c'est à Saint-Berthevin, c'est ça ? Vous dites, moi, c'était ma cour de récréation.
Oui, c'est-à-dire qu'à 30 mètres à vol d'oiseau au maximum, la chambre de l'appartement de mes parents était donnée à 30 mètres sur l'atelier de mon grand-père. Et donc, ma cour de récréation, c'était plutôt de monter au volant des camions de mon grand-père et d'observer avec attention les ouvriers qui peignaient, qui carrossaient les magnifiques véhicules de l'époque.
Que dit notre coach, Frédéric Mazella ?
Alors bonjour.
Bonjour.
J'ai pas idée du volume en fait que représente tout cela, mais peut-être au-delà du volume, il y a une préoccupation un petit peu récurrente au niveau de l'environnement actuellement et pour malheureusement, je pense, pas mal d'années. Et je voudrais savoir quel est l'impact en fait environnemental de toute l'industrie éventuellement de la carrosserie, pas seulement vous, mais peut-être plus loin. Et quels sont les métaux qu'on doit aller sourcer ? Ensuite, quelle énergie on dépense pour les façonner ? Est-ce que ça peut représenter ? Et comment, peut-être, on peut aborder la chose pour faire mieux, faire plus économique, aussi bien en termes de matériaux qu'en termes d'énergie ?
Patrick, écoutez,
la recherche principale sur laquelle nous travaillons, c'est le poids. Parce que la masse d'un véhicule est quelque chose qui est essentiel. Et les nouvelles normes WLTP qui sont sorties le 1er septembre dernier et celles qui vont sortir le 1er septembre prochain pour les utilitaires intègrent la notion de masse. Donc, pour répondre très clairement à votre question, des matériaux composites ou des matériaux plutôt comme l'aluminium, sont des produits sur lesquels nous travaillons et nous travaillons dans nos bureaux d'études avec tous nos hommes d'études qui sont pas moins du 120-130 dans un groupe comme le nôtre, travaillent particulièrement.
Groupe de 1500 personnes.
Hein. Sur 1500 personnes, voilà. C'est 8% des effectifs sont à la recherche de ce genre de situation. Par contre, chaque métier a ses particularités et nous faisons déjà attention et le produit, nous l'éco-concevons, comme on l'évoque dans notre métier. Ça fait partie des choses que nous travaillons.
C'est Gruau, c'est l'entreprise qui va bien et qui a 130 ans. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
En prie.
Et Gruau qui continue, notamment avec vos filles et votre fils Guillaume, puisque c'est la suite de l'entreprise.
Écoutez,
familiale.
La sixième génération est dans l'entreprise et la septième est née. Voilà. Donc,
merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h50.
Europe 1.
Réviser en chantant, c'est possible. La solution pour être sûr de retenir les leçons, c'est StudyTrax. À tout de suite.
C'est le meilleur de la France, bouge ! Et tout de suite, on se penche sur un moyen ludique de retenir ses cours en musique. C'est la solution.
Oubliez les annales de révision. Benjamin Lévesque, vous avez trouvé une solution plus originale en musique.
Exactement, c'est l'application StudyTrax qui en fait permet de réviser en écoutant de la musique. En fait, les fiches de révision sont chantées pour qu'on retienne davantage telle formule de chimie pour peut-être faire du savon ou telle formule de mathématiques. Bonjour Alexandre Huppert.
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
Alors merci d'être là.
Vous êtes le cofondateur de StudyTrax. Cette idée, elle est arrivée il y a 3 ans. Comment est-ce que ça s'est fait ?
Bah écoutez, c'est assez simple. J'ai un ami qui est producteur de musique de renom à Londres et qui avait un problème que finalement beaucoup de familles partagent, l'échec scolaire de son fils. Donc on a eu une idée toute simple, et d'ailleurs c'était sur la physique, sur la première loi de Newton, de créer une chanson de telle manière à ce que son fils puisse apprendre plus facilement. C'est vrai qu'on sait tous qu'il est facile de retenir les paroles de chansons. Et donc, c'est vraiment la base de ce que nous faisons.
Et on va justement en écouter un extrait. Les mathématiques expliquées, ou plutôt rappées, par Soprano.
Bienvenue sur StudyTrax.
Yeah, salut, c'est Soprano pour StudyTrax.
Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs.
Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droit D, D' c'est quand en A. Soit 2 droit D, D' c'est quand en A. Soit B et M de
point. Attendez, moi j'aurais adoré avoir ça à l'époque. Hein. J'aurais été meilleur en maths. Hein.
Vous en avez combien des chansons comme ça ?
Alors en tout, on a 1500 chansons et 560 sur la France. On couvre tout le brevet et les bacs, le bac pour les filières générales.
Et justement, là, on a entendu du rap. Est-ce qu'il y a des mélodies qui sont plus adéquates pour telle matière ou
Oui, pour la France, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment avoir tous les styles musicaux, donc pop, R&B, rap. Mais il est vrai qu'on travaille étroitement avec des scientifiques, notamment avec Emmanuel Bigan, que je salue, puisqu'il nous a aidé vraiment depuis le départ à créer une méthodologie qui maximise la rétention d'informations. Donc vous verrez que chaque chanson, on répète beaucoup. On répète trois fois les mêmes informations et on va les délivrer de trois manières différentes, en narration via un professeur et ensuite en chantant, puis chantant avec de l'harmonie.
Et par exemple, pour l'histoire, la philosophie, c'est plus quoi, de la pop ?
Alors, sur l'histoire et la philosophie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. Donc, on va utiliser un style musical un peu plus rapide. Donc, on sera un petit peu plus sur le rap. Sur les sciences, c'est un peu plus de pop qu'on a fait.
Que dit notre coach, Frédéric ?
Alors, je trouve ça marrant parce que c'est vrai que tout le long de mes études, je me suis toujours trouvé des moyens mnémotechniques. Mmh. Alors, je ne suis pas allé jusqu'aux chansons parce que forcément, c'est beaucoup plus de travail, y compris artistique, d'aller créer une chanson sur des formules de maths ou de physique. Mais par contre, des moyens mnémotechniques, j'en ai utilisé beaucoup. Et je voulais savoir si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, c'est-à-dire pas forcément chanter, mais juste des moyens de mémorisation, parce qu'en fait, au final, là, on utilise la chanson comme moyen de mémorisation, mais il y en a d'autres. Et ma seconde question, c'est que, apprendre ou retenir, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Alors, comment est-ce que les chansons peuvent aider peut-être à comprendre et pas juste à retenir ou à bachoter purement et simplement ?
Donc, première, non, mais en fait, ce qui nous anime, c'est d'aider les enseignants à intéresser les élèves. C'est ce qu'on fait.
Donc ça veut dire que les enseignants l'utilisent aussi.
Absolument, oui, oui. Ben, on a vu M. le ministre Blanquer il y a à peu près maintenant 15 jours. On a de grandes ambitions en France, de manière à déployer cette méthode sur le territoire, comme on l'a fait dans d'autres pays. Alors pour répondre à votre question, on n'est pas là pour faire des générations de jeunes qui connaissent par cœur tout, puisque en fait ce serait finalement inutile. On est là pour les aider à avoir les fondamentaux. Comment StudiTrack est utilisé aujourd'hui par les enseignants ? Ils sont utilisés à ce qu'on appelle en pédagogie inversée. Les enseignants vont comprendre. L'idée, c'est de dire, bien, dans trois jours, on va faire l'ADN. Eh bien, vous m'écoutez cette chanson et vous allez arriver en classe déjà avec les bases sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et ça fait gagner un temps fou aux enseignants. Et bien sûr, évidemment, les élèves qui sont en décrochage scolaire, ceux qui ne veulent plus entendre parler de l'école, s'ils ont du Joestar, du Soprano dans les oreilles, et s'ils reviennent à l'école, eh bien on aura gagné.
Ça donne envie.
Ça s'appelle StudiTrack, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Merci à Frédéric qui était notre coach aujourd'hui. Et nous, on se dit à demain,
à demain.
Benjamin.
Europe 1.
Voilà pour ces astuces innovantes sur Europe 1. Demain, dans La France bouge, Raphaël Duchemin nous parlera du livre audio, lui aussi en plein essor. Et tout de suite, juste après les infos, on retrouve Christophe Fondelatte qui nous raconte l'histoire d'une véritable miraculée, Baya, rescapée d'un crash d'avion dans l'océan Indien. À tout de suite.